Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Patrice Payen, c'est l'humilité, la discrétion, la modestie. Comment, dans ces conditions, imaginer qu'il est docteur ès lettres, rien que ça. Et un spécialiste de la littérature, comme il en existe peu dans la Sarthe, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui tournent autour de l'écriture avec plus ou moins de talent. Bonjour Patrice Payen. Pour achever les présentations, vous êtes un chercheur. Chercheur dans l'esthétique du roman. Alors, en quoi ça consiste exactement, l'esthétique du roman ?
Alors, l'esthétique du roman, lorsque j'ai commencé à faire mes recherches, j'avais commencé à travailler sur Julien Gracq. Mon projet, c'était de travailler dans l'œuvre de Julien Gracq par rapport au surréalisme. Et à l'époque, j'étais donc à l'université de Nantes et on m'avait conseillé de rencontrer le spécialiste à l'époque des colloques des actes de Julien Gracq à Angers. En l'occurrence, c'est Georges Cesbron, pas Gilbert Cesbron, Georges Cesbron.
Georges.
Lequel m'avait dit, écoutez, ce que vous faites, c'est très intéressant, sauf que beaucoup de travaux ont été faits déjà autour de la question. Et moi, je vous conseille de rencontrer Julien Gracq. J'ai donc rencontré Julien Gracq au début des années 80.
Un monument, hein.
Alors là, ça a été pour moi, évidemment, un grand moment. Rue de Grenelle, je monte les escaliers, je le vois apparaître du haut de sa petite stature, parce que c'était un homme petit très
homme.
Austère. Et franchement, c'était un moment, comme il y a eu d'autres moments comme ça par la suite, c'était un phare pour moi, hein, longtemps. Et le temps passant, finalement, j'ai abandonné le travail sur Julien Gracq.
Bah, d'ailleurs,
lui-même me disait « Je ne comprends pas qu'on puisse travailler sur mes œuvres ». Bon, ça, c'était l'image de l'écrivain.
Il se sous-estimait, finalement, par rapport à la vision populaire.
Sa popularité, lui, il n'en voulait pas trop. Hein. On lui accordait un côté élitiste. C'était un travailleur de l'ombre, mais d'ailleurs, le Goncourt l'a accepté du bout des lèvres. Hein, bon. Et alors, ceci dit, moi, je me suis un peu éloigné de Julien Gracq, pas tellement pour son œuvre, mais par rapport aux travaux que j'avais entrepris. Et j'ai fait en sorte de trouver un auteur qui fasse la jonction entre le romantisme et le naturalisme. C'est ce qui m'a amené à travailler sur l'esthétique du roman. Voilà. Et donc, du coup...
Voilà l'explication.
C'est ça l'explication. Et ça a débouché sur un travail de thèse qui s'intitule « Images et conditions de la femme » dans l'œuvre d'Octave Feuillet. Parce que ce personnage-là, qui à son époque avait eu un retentissement assez incroyable, puisque je crois qu'il avait eu... Il était publié à 45 000 exemplaires, que pour l'époque c'était considérable. Et donc, je me suis appesanti sur cette œuvre-là, et j'ai découvert effectivement qu'il y avait des points de convergence entre ce qu'avait pu faire, Hugo et Zola en fin de siècle, donc d'où mon travail sur l'esthétique du roman, quoi. Différentes formes que peuvent revêtir un roman.
Mais du coup, Julien Gracq, certes, ça n'a pas abouti, mais il a été un tremplin.
Ah ben oui,
il a été aussi un révélateur d'un aspect de la littérature qui n'était pas trop exploité finalement.
Non, c'est un auteur un peu confidentiel quand même. Hein. Évidemment, on sent le géographe, tous ces paysages, le promeneur au bord de la Loire, etc. Et tout ça me plaisait, avait des retentissements chez moi. Hein. Mais ça remonte plus loin, quoi. C'est vrai qu'il y avait une espèce d'effluve du Grand Maulne, hein, le Grand Maulne à travers Julien Gracq, et tout ça participait d'un cheminement.
Et à la Fournier, hein, pour ceux qui connaîtraient pas le Grand Maulne.
Et donc tout ça, c'était un cheminement. Après, évidemment, il y a eu des auteurs phares pour moi. Hein. Ça a été Claude Simon, évidemment. Après,
on est un peu dans le même créneau que Julien Gracq, là.
Hein. Oui,
Des personnages un peu mystérieux, un peu sombres.
Et surtout, l'esthétique du roman, pour le coup, tout à fait novateur.
Ah bah oui.
Il fait partie évidemment des références des éditions de Minuit, comme l'a été ensuite.
C'est une écriture tout à fait particulière.
C'est vraiment. Alors, on a prononcé tout à l'heure le mot d'architecture. Pour le coup, chez Claude Simon, c'est vraiment une architecture romanesque énorme.
Hein. Et longuement préparée avant l'écriture.
Ah oui, longuement préparée. C'est pas la perspective de la fable en tant que telle, c'est véritablement un travail de construction, de montage. Oui, tout à fait, là, c'est impressionnant, quoi. Donc, ces auteurs-là, comme Echenoz par la suite, chez Rollin aussi, ce sont des auteurs qui...
Et qui ont influencé votre propre écriture.
Qui m'ont influencé quand même, parce que ce sont ces auteurs-là vers lesquels je vais le plus souvent, comme on va rendre visite à un ami, et les revisitant, eh bien, je sais que je vais pouvoir y trouver... Une lueur supplémentaire.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des auteurs qui sont finalement les médecins d'autres auteurs? Oui. C'est-à-dire qu'ils donnent un peu des traitements, ou comme un cuisinier qui donnerait des...
Je dis ça parce que, par exemple, pour telle description, pour tel point de vue, pour telle part de lyrisme, je sais à qui m'adresser. Hein, je pense là tout de suite à Alexandro Barrico, que ce soit Oceano Mare, Seta, ces ouvrages-là où il y a une part de lyrisme énorme. Et j'aime bien me retremper dans ces œuvres-là, parce qu'il y a quelque chose à puiser, c'est sûr. Toute façon, l'écriture, c'est jamais ex nihilo. Il faut puiser quelque part. Hein. S'imprégner, c'est comme pour le cinéma, le théâtre. Bon, les autres auteurs, les autres écrivains donnent matière aussi à donner, à éclairer sur des choses intéressantes, quoi. Voilà.
Intéressant, ça démarre bien là. Outre cet aspect donc de recherche, il faut préciser que vous êtes professeur d'université et que vous avez enseigné la littérature. Oui. C'était votre mission principale. Oui. Est-ce qu'on peut affirmer que c'était pour vous insuffisant finalement et qu'il fallait passer à la pratique, c'est-à-dire écrire vous-même?
Alors, c'est-à-dire que d'un point de vue un petit peu sous forme d'expédient, c'est vrai que l'écriture ne peut pas exister, on sait très bien pour en vivre. Hein. Donc du coup, la littérature, l'enseignement, était une espèce de compromis pour moi. Je l'ai fait avec passion, mais avec aussi toujours le souhait de consacrer mon temps pour l'écriture.
Oui, il y avait quand même une frustration à ne faire qu'enseigner la littérature.
Mais j'ai toujours écrit en enseignant.
En parallèle.
J'ai toujours écrit en enseignant. Alors, évidemment, avec une fréquence évidemment moindre, puisque, bon, notamment à l'université, le temps de préparation, de lecture, etc., nécessite quand même un déploiement de travail assez conséquent. Bon, ceci dit... ça fait quelques années maintenant que je n'enseigne plus à l'université. Il est vrai que pendant que j'écrivais, alors que j'enseignais, je me suis aperçu que quelque part, toute cette acquisition universitaire ne faisait pas forcément bon ménage avec l'écriture. Parce que je m'inscrivais dans une démarche essentiellement académique, par ma voie universitaire, il m'a fallu un petit peu me dépoussiérer de tout ça. Et ça a demandé du temps.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les les fissures, fermer les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Alors, on pourrait dire que le livre qui est la transition, on vient de le dire, entre l'étude littéraire et la pratique du roman, chez vous, ce pourrait être « La voix dans ton cœur est l'écho », qui a été publié en 2015.
Oui.
En réalité, il s'agit vraiment d'un roman, mais dans lequel vous exprimez comment naît, vous expliquez comment naît un personnage de roman.
C'est ça.
En fait, le héros est un homme
oui.
qui découvre qu'un auteur lui vole sa personnalité, son histoire, enfin tout quoi.
Oui.
C'est bien ça. Et finalement, vous avez le premier livre a été quelque part une espèce de comment dirais-je de transition entre l'enseignement et le livre et votre écriture.
Alors,
je sais pas.
C'est ça. Dans ce roman-là, effectivement, il y a une, en quelque sorte, pour employer une métaphore, un laboratoire, puisqu'il y a une fable qui est là, mais derrière la fable, il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de l'écrivain. En sorte, j'invite le lecteur à venir voir ce qui se passe dans les cuisines. Comment on prépare la sauce.
C'est vrai que quand on va au restaurant, on ne voit pas ce qui se passe dans la cuisine.
Donc voilà.
Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre qu'on a dans notre assiette, souvent.
Voilà.
C'est la même chose.
Donc, à travers ce roman-là, c'est ce que j'ai voulu faire, quoi. Mais bon, le premier roman, quand même, date de 1993.
Ah oui,
je
mets le départ, là, oui, oui, je mets le curseur en 2015.
Avant, il y a eu bien autre chose. Hein. Le premier, ça a été quand même Le Songe pulvérisé. Alors, Le Songe pulvérisé. Le songe pulvérisé, je me suis inspiré du mythe des parcs. C'est-à-dire, les parcs, ces trois déesses que l'on découvre parfois sur les vases antiques, hein, Lachésis, Clotho, Atropos, hein, pour faire vite, hein, c'est le fil symbolique qui est tenu par l'une, tiré par l'autre et coupé par la troisième. Et donc, ce schéma-là m'a inspiré une fable. C'est-à-dire que j'ai mis de côté, évidemment, les déesses, les trois déesses, pour les actualiser, les rendre contemporaines. Et donc, au milieu de tout ça, j'ai mis un personnage. J'ai mis un personnage qui s'est trouvé, en quelque sorte, pris dans les mailles du filet de ces trois femmes, à différents moments de sa vie. Donc, voilà. Et le fil conducteur de tout ça, c'était la symbolique, évidemment, du mythe des parcs.
Il y avait d'ailleurs aussi, en 2012, du coup, je fais une je remonte aussi dans l'autre sens, ce que les mots disent la nuit, dans lequel vous rendez hommage à ceux qui vous ont transmis le goût des mots. Donc, c'est le sentiment que j'ai, c'est vraiment ça, hein, chez vous. On sent que, à la fois votre métier, l'obligation d'étudier la littérature vous-même pour pouvoir la transmettre à des étudiants, oui. Et puis vos lectures, vos rencontres, au début, c'est quand même des choses qui se c'est plus fort que vous quand même. Vous commencez par ça.
Il y a ce côté redondant qui fait que pour moi, la littérature est une nécessité, une respiration, un mode de vie.
Ouais, une respiration.
Ah bah oui, parce que ma vie est ancrée dans l'écriture. Hein, je veux dire, voilà.
Et donc le petit dernier.
Voilà.
Alors ça, c'est comme une fugue de Bach. Le titre déjà est plutôt sympa. Alors ça se passe au XVIIIe siècle, à peu près à la moitié du XVIIIe siècle, et on a un certain Augustin qui est passionné par le violon, mais aussi par une jeune fille qui s'appelle Eugénie, qui est la fille de son maître de musique.
Alors là on est vraiment dans le roman historique pour le coup, vraiment de plein pied, puisque XVIIIe siècle, 1753, Augustin Mallet vit chez ses parents qui sont maître libraire imprimeur. Et ce jeune Augustin Mallet a un engouement pour la musique. Et il se trouve que dans la boutique du libraire, chez les Mallet, vient de temps en temps un dénommé Diderot, qui habite dans le quartier.
Voyez-vous ça ?
Alors, chemin faisant, dans la discussion... on se dit, c'est vrai que chez moi j'ai un violon tout poussiéreux qui ne sert à rien. Diderot est prêt à le prêter à Augustin Mallet, qui a quand même quelques dispositions musicales. Et chemin faisant, il apprend à jouer du violon. Et un jour, il y a ce maître de musique-là, maître Montan-Berton, qui vient chez le libraire pour recueillir des partitions. Et il propose à Augustin de prendre les leçons. Et se rendant chez lui pour prendre ses leçons, il fait la connaissance, pas tout de suite, mais au fil du temps, de Eugénie, dont il va tomber amoureux. Mais ça,
et c'est réciproque.
Et c'est réciproque, mais ça rentre pas vraiment dans la
conception,
évidemment.
C'est là que ça va pas. C'est qu'il a d'autres visions, le papa.
Alors, il n'en reste pas moins que Augustin Mallet fait des progrès au violon, de grands progrès. Et maître Montan-Berton, le maître de musique, lui propose un jour, à l'église Saint-Jacques, non loin de là, de faire un concert. Et à ce concert-là, il va rencontrer Casanova, qui est de passage à Paris, chez la fameuse Baletti, comédienne italienne. Et le moment vient où Augustin doit se mettre en quête d'un violon qui soit à la hauteur de son talent. Comme Casanova doit revenir sur Venise, puisque quand même Venise, après avoir connu des années de disgrâce, va proposer à Augustin...
De le suivre.
Écoute, je retourne sur Venise...
Viens avec moi.
Tu m'accompagnes, je te présente au luthier, à un luthier que je connais, parce qu'il faut quand même savoir que Casanova n'est pas simplement le dragueur galvaudé qu'on...
connu.
Pas essentiellement ça, c'est pas uniquement ça.
C'est
aussi un musicien, c'est un écrivain. Donc du coup, ils vont faire le voyage ensemble et l'accompagner jusqu'à Venise. Bon, évidemment, tout le voyage va être ponctué de différentes anecdotes, hein, parce qu'on est quand même au XVIIIe siècle.
Et il faut un certain temps pour aller jusqu'à Venise.
Il faut un certain temps pour y aller. Donc, avec toutes les vicissitudes de l'époque, hein, changement au relais, les auberges, etc. Donc, voilà.
C'est un parcours initiatique, en fait,
pour
Augustin.
C'est un parcours initiatique. Et là, c'est pareil. J'ose espérer qu'on y voit différents niveaux de lecture. Parce que dans ce couple... Casanova-Augustin Mallet, que tout oppose pratiquement. Ils ont un sujet en commun, c'est la musique. Un sujet en commun, parce qu'en même temps, c'est l'époque, c'est la querelle des bouffons, il y a les partisans de Rameau, il y a les partisans de la Pergolèse, et sur ce sujet-là, Casanova et Augustin s'entendent bien. Par contre, dès lors qu'il s'agit de leurs histoires d'amour, évidemment, ils ne sont pas dans le même créneau. Hein.
Augustin lui, est amoureux, il a envie d'avoir une vie de couple, tranquille.
Alors que Casanova, lui, il a tendance à ouvrir le catalogue de toutes ses aventures. Bon. Donc, il y a ce niveau de lecture-là aussi, et puis... il y a cette idée aussi qu'il y a des problèmes financiers qui accompagnent Casanova, qui vont ressurgir tout au long du voyage. Quoi.
Et puis, il y a un petit truc que vous ne dites pas, c'est que finalement, le papa de Génie, ben, ça l'arrange bien que ce jeune prodige s'éloigne de sa fille. Parce que lui, il veut la caser plutôt chez des puissants.
C'est ça. Parce que, Maître Montemberton lui a présenté le marquis de Maupois.
Encore un qui... Il y a des personnages réels. Hein.
Alors, le marquis de Maupois, évidemment, qui est un personnage un petit peu énigmatique, hein, puisque il va traiter des affaires avec Casanova. Et effectivement, tout ça, ça va compliquer leur histoire.
Hein. Ouais. Alors, on va peut-être pas en dire plus, hein, parce que sinon les gens ils vont pas acheter le livre, c'est pas la peine s'ils connaissent déjà l'histoire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Augustin va-t-il s'affirmer? Est-ce qu'il va s'imposer? Est-ce qu'il va conquérir Eugénie? Tout ça, on va voir ça. On verra ça en lisant le livre.
Juste peut-être un mot.
Oui, je vous en prie.
Par rapport au titre, c'est qu'au retour, Augustin, revenant de Venise sur Paris, va s'arrêter dans une auberge et faire la connaissance d'un facteur d'orgue. Et ce facteur d'orgue-là, évidemment, il va t'interpeller. Augustin, il a son violon avec lui. Bon, vous pouvez me le faire voir, je vais l'essayer un petit peu.
Jouez-moi un truc.
Voilà. Et alors, la discussion se poursuivant, le facteur d'orgue lui dit, bah, écoutez, moi j'arrive d'Allemagne et j'ai fait la rencontre d'un organiste très prometteur, Jean-Sébastien Bach.
Voilà, d'où le titre du roman. Alors, juste une petite anecdote que j'aime bien ajouter, parce que vous avez mis Diderot dans votre roman. Oui. Juste une petite précision pour les auditeurs. Diderot, c'est quelqu'un qui a quelques petites relations avec la Sarthe, parce qu'il a épousé une fille de La Ferté-Bernard. C'était une fertoise, sa femme.
Ah oui.
Alors, ils ont eu des hauts et des bas dans leur vie, hein, mais ils sont restés fidèles sans arrêt. Enfin, elle a été...
C'est Antoinette, non ?
Toinette.
Alors, Toinette, elle apparaît dans le roman.
Et Toinette était une fertoise. D'accord. Elle est née à La Ferté-Bernard. Ouais. Et voilà, ils étaient voisins de palier. Il amenait son linge. Il faisait laver son linge dans cette famille. Mmh. Et puis, il est tombé amoureux de Toinette, une petite sartoise. Oui. Voilà. Oui. Et je rappelle juste le titre. Alors, c'est comme une fugue de Bach aux éditions Saint-Martin. 18 € pour connaître le prix et qui vient juste de sortir, voilà. Et donc, je vous conseille fortement d'aller voir dans les librairies. Et puis, merci d'être venu parce que c'était intéressant. C'est peut-être la première fois dans une émission que je fais avec des gens qu'on a un aspect plus...
Dans l'écriture, quoi.
Oui, plus propre à l'écriture, voilà.
Oui.
C'est ça. Donc, vous l'avez compris maintenant, Patrice Payen n'est pas un écrivain ordinaire, je pense. Qu'il écrive ses propres romans ou qu'il parle de ceux des autres, et il entre au plus profond de la création et cherche à comprendre, comme un ethnologue ou un sociologue qui se pencherait sur les écrivains, seulement les écrivains.